Claude Lévi-Strauss est considéré comme un des penseurs les plus importants de notre époque. Après quelques années de travail chez les Indiens du Brésil, Claude Lévi-Strauss fit connaître en 1949 les premiers résultats de ses recherches dans un ouvrage intitulé « Les structures élémentaires de la parenté ». Depuis lors, la pensée de Claude Lévi-Strauss n'a cessé d'influencer non seulement les anthropologues, mais aussi les sociologues, les philosophes et les théologiens. De passage au Québec, Claude Lévi-Strauss s'entretient avec Marcel Brisebois.
Claude Lévi-Strauss, vous avez consacré presque toute votre œuvre à étudier les sociétés que l'on dit primitives. Qu'est-ce que ces sociétés peuvent nous apprendre à nous qui appartenons aux sociétés industrielles?
Bon, ben, commençons, si vous voulez, par le mot primitif. Justement, je disais tout à l'heure que je l'utilisais peu ou que je ne l'utilisais pas. C'est un terme qui est plein d'enseignements à la fois négatifs et positifs. Négatif, car évidemment, il n'y a pas de société qu'on puisse appeler primitive. Toutes les sociétés humaines sont composées d'hommes dont la généalogie, si je puis dire, est aussi longue, et nous savons aujourd'hui que l'antiquité de l'homme sur la Terre se chiffre non pas par centaines de milliers, mais par millions d'années, et toutes ont le même passé, un passé aussi profond derrière elles, et toutes ont connu des guerres, des révolutions, des migrations. Donc, il n'y a pas de société qu'on puisse appeler primitive. Mais tout de même, il y a dans le terme, et ça va me permettre de venir à votre question, il y a dans le terme une certaine vérité. Si nous décidons d'appeler primitives des sociétés qui ne le sont certainement pas, mais qui veulent l'être ou qui voudraient l'être, je veux dire, dont toute l'idéologie est de conformité avec ce qu'elle s'imagine ou ce qu'elle rêve avoir été au commencement des temps, et que l'expérience la plus commune et la plus banale de l'ethnologue sur le terrain qui demande à un de ses informateurs la raison d'une coutume qui lui semble bizarre, c'est que la réponse classique est « voilà, nous le faisons parce que nos ancêtres le faisaient ». Et qu'en effet, l'état de la société à l'origine mythique des temps est considéré comme étant une sorte d'archétype qui est la justification, le gage, la garantie de ce que la société est dans le présent et de ce qu'elle doit être dans l'avenir et qu'elle ne parvient jamais, bien entendu, à réaliser. Alors, il y a une différence d'attitude assez fondamentale entre ces sociétés sans écriture et nous.
Ces sociétés que vous avez appelées sociétés froides, je pense, n'est-ce pas ?
Sociétés froides, non pas qu'elles soient froides, car bien entendu, il y a dans ces sociétés toutes sortes de mouvements dont on pourrait essayer de retrouver les équivalents ou les correspondants ailleurs. Mais elles se souhaitent froides, c'est leur idéal. Tandis que, au contraire, Nous souhaitons être une société chaude. Je veux dire que l'idéal pour nous n'est pas l'état de l'humanité tel que nous la rêvons à l'origine des temps. C'est au contraire de nous éloigner le plus possible de ces conditions originelles et de nous transformer sans cesse. Et je pense que c'est la grande différence. Encore une fois, une différence qui n'est pas une différence de réalité, mais qui est une différence de valeur, des valeurs respectives de ces sociétés et de nous-mêmes. Et je pense que ce sont ces différences de valeurs qui peuvent nous amener à répondre à la question que vous posiez. Vous demandiez à quoi nous sert l'étude de ces sociétés. Bon, à ça, je commencerai par vous répondre très simplement que les anthropologues sont des gens qui étudient les sociétés, les cultures humaines et qui essayent de le faire de la façon la plus rigoureuse possible. Seulement, ils ne peuvent pas le faire avec les méthodes de la physique ou de la biologie. Ils ne peuvent pas monter des expériences dans leur laboratoire pour vérifier des hypothèses. Nous ne pouvons pas fabriquer des sociétés, nous ne pouvons pas intervenir sur des sociétés pour toutes sortes de raisons, les unes d'ordre moral, les autres d'ordre financier, ça coûterait extraordinairement cher et ça prendrait terriblement longtemps.
Vous ne pouvez que constater.
Bon, alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher les expériences là où elles sont. L'étude des sociétés lointaines ou exotiques, eh bien, ce sont des expériences toutes faites qui sont là et dont nous allons observer le déroulement. Donc, ces sociétés nous permettent de pratiquer la méthode expérimentale. N'est-ce pas ? Bon, ça c'est du point de vue de la méthodologie, si je puis dire. Et en même temps, elle nous apporte de très grands enseignements, puisqu'elle nous montre la gamme extraordinairement riche et variée sur laquelle l'humanité a joué, a composé, si je puis dire, ses hymnes ou ses symphonies institutionnelles. Un échantillonnage aussi diversifié qu'on peut l'obtenir de toutes les modalités concrètes des croyances, des coutumes, des institutions humaines. Et donc de nous aider à poursuivre à très grande échelle, à la plus grande échelle qu'il soit possible, ce grand effort de réflexion humaniste qui a commencé à la Renaissance, par la considération de ce qui pouvait paraître le plus différent et le plus éloigné dans un monde qui était encore très cloisonné, très petit, très restreint, mais quand dans les collèges des jésuites du XVIIe siècle ont mis à la base de l'éducation des enfants le grec et le latin, eh bien, c'était un effort de réflexion sur des formes de pensée et des formes de vie sociale différentes de celles à laquelle appartenaient les contemporains.
Mais qui était aussi proposé comme un idéal, n'est-ce pas? Je pense par exemple, un peu plus tard, tout au moins au XVIIIe siècle. Et on ne peut quand même pas prendre ces sociétés, nous, comme un idéal.
Vous avez entièrement raison, on n'aurait pas dû non plus prendre l'expérience grecque et romaine
comme un idéal.
Comme un idéal, c'est un idéal à certains égards. Enfin, elle comportait certains enseignements et d'autres, au contraire, dont il était
Et on voit comment ça tourne vraiment dans la Révolution, par exemple.
Important et urgent de se détacher. Bon. Alors, il ne s'agit pas du tout de prôner le retour à je ne sais quel primitivisme, et je suis bien le dernier qui adopterait vis-à-vis, par exemple, des grands progrès de la science contemporaine, quels que soient d'ailleurs les inconvénients matériels et les dangers très graves qu'elles entraînent, mais qui adopterait une attitude de stiilité ou de négation. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de plus haut mode de connaissance que la connaissance scientifique, et je ne proposerai pas du tout d'y renoncer. Nous pouvons tout au moins apprendre à mieux connaître nos propres institutions en les situant ou en les resituant dans l'ensemble dont elles font partie, de même que nous comprenons quelles sont les propriétés et les fonctions des organes d'une fleur quand nous la remettons à l'intérieur de l'espèce et l'espèce à l'intérieur de l'ordre ou de la famille, de même en étudiant un animal. Nous nous donnons le moyen de pratiquer une étude comparative, et puis peut-être, probablement, ou du moins je l'espérerai, nous pouvons acquérir une certaine modestie ou humilité vis-à-vis de notre propre société, de notre propre civilisation, de nos propres croyances, en nous rendant mieux compte qu'elles sont l'expression d'un certain choix entre les possibles, et que tout choix entre les possibles entraîne, procure des avantages et entraîne aussi des inconvénients. Je veux dire qu'on ne peut pas adopter certaines formes de vie et de pensée sans renoncer à d'autres qui ont, elles aussi, leurs vertus. Du fait que nous avons opté pour la civilisation industrielle, du fait que nous avons opté pour la pensée scientifique, bon, nous avons fait certainement d'immenses progrès, nous avons peut-être perdu des choses essentielles, comme le sentiment d'un certain rapport de l'homme avec les autres manifestations de la vie, d'une certaine perte de contact avec la nature, entraînant enfin des dangers extraordinairement graves que nous commençons seulement maintenant à mesurer avec l'épuisement des ressources naturelles, la pollution qui nous menace dans notre bien-être physique et moral et qui peut-être menacera encore bien davantage nos enfants et nos petits-enfants. Nous avons payé ce que nous avons choisi d'être par de grands risques. D'autres sociétés ont choisi autre chose, et ces sociétés qu'étudient les ethnologues ont en général choisi, mis au premier plan de leurs aspirations pour l'homme, de vivre en bonne entente avec le reste de la création. Bon, ça a impliqué pour elles certaines renonciations. Après tout, il n'y avait rien dans la structure de leur cerveau qui les aurait empêchés de créer la science, mais ils s'en sont privés parce qu'ils ont eu un autre idéal et ils ont été inspirés par d'autres valeurs.
Mais ces sociétés, n'est-ce pas ? Oui. Il faut bien les reconnaître, sont en train de disparaître.
Il n'y a pas de...
Et vous le regrettez, n'est-ce pas ? Et d'autre part, l'homme occidental est extrêmement centré sur lui-même et sur ses valeurs, cette culture. Est-ce que, justement, il y a... Comment voyez-vous, justement, cette possibilité pour un humanisme, dont vous parliez tout à l'heure, de maintenir cette diversité qui vous tient si à cœur ?
Je ne pense pas que c'est par un acte de volonté, n'est-ce pas, que nous maintiendrons une diversité. Mais ce que l'ethnologie nous enseigne peut-être, c'est que tout ce qui s'est passé d'intéressant, de fructueux dans l'histoire de l'humanité depuis qu'elle existe, a probablement résulté de la mise en contact de différences. J'espère que c'est précisément la diversité qui a régné dans les civilisations humaines pendant des millénaires, des centaines de millénaires et jusqu'à une époque encore très proche de la nôtre, qui a créé les conditions les plus favorables à l'invention, à la création esthétique, et le cas de l'Europe me semble extrêmement significatif à cet égard, pour autant que l'Europe a dû toute sa richesse au fait qu'elle était une sorte de carrefour entre des influences qui venaient aussi bien de l'Est que du Sud, aussi bien du monde arabe que du monde oriental, du contact entre différentes modalités des cultures indo-européennes, ainsi de suite. Eh bien, si c'est là un fait, alors nous pouvons peut-être supposer, ou du moins parier, sur le fait que cette diversité existera toujours, peut-être sous d'autres formes que celles où l'histoire nous les présente, sous des formes que nous ne pouvons pas prévoir, mais que si la diversité est une sorte de condition, enfin, optima pour la vie et le développement de l'humanité, au fur et à mesure que la civilisation mécanique industrielle s'étendra sur l'ensemble de la Terre, d'autres diversités apparaîtront en son sein.
On trouvera peut-être pas chez les peuples, mais peut-être dans les classes sociales.
Peut-être dans les classes sociales, peut-être entre les générations, ou en tout cas sous des formes que nous ne pouvons pas concevoir. On peut d'ailleurs se demander si ce qu'on appelle aujourd'hui le conflit des générations, si la prolifération de sectes qu'on observe dans certaines régions, ben ce ne sont pas certaines esquisses, manifestations de nouvelles formes de diversité qui tendraient à apparaître. Mais enfin, il ne s'agit pas de faire des prophéties, ce sont des choses qu'on constate après coup et qu'on ne devine pas et qui surprennent toujours.
On sait, Jean Lévi-Strauss, que vous êtes très attaché aux rites, n'est-ce pas ? Or, les rites, nous le savons, dans nos sociétés industrielles, ont tendance à disparaître. Est-ce que vous ne le regrettez pas ?
Bon, je ne dirais pas que je suis attaché aux rites, je suis respectueux des rites pour des raisons d'ordre professionnel, parce que je crois, si vous voulez, qu'une société ne peut jamais être présente à elle-même ou une civilisation de manière strictement rationnelle, enfin, qu'elle s'appauvrit considérablement et qu'il y a quantité d'aspects que nous appréhendons de façon plus directe, plus immédiate, plus profonde, s'ils nous atteignent par les voies de la sensibilité. Ce sont des choses que Louis XIV avait déjà dit dans son testament, quand il s'efforçait de justifier ce cérémonial extraordinairement compliqué de la cour, n'est-ce pas, qu'il avait instauré. Et il disait, enfin je cite de mémoire, probablement il n'existe pas, et probablement c'est inexact, il disait, on ne peut pas demander à tout le monde d'aller toujours au fond des choses, n'est-ce pas ? C'est-à-dire de trouver la justification rationnelle de toute pratique, de tout usage. Et donc, il est bon que nous ayons d'autres moyens qui touchent plus directement la sensibilité d'appréhender certains aspects de l'ordre social, enfin, qui est le nôtre et dans lequel nous vivons.
Mais actuellement, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une espèce de vide ou de fatigue de la sensibilité de l'imaginaire? Et pensez-vous qu'il est possible, n'est-ce pas, qu'on assiste à un rebondissement de cette sensibilité, de cet imaginaire dans nos sociétés?
Je n'en sais rien. Je crois que, enfin, quand il s'agit des hommes, tout est toujours possible, parce qu'après tout, le devenir humain a cessé d'aller de surprise en surprise, aussi loin que nous puissions l'appréhender. Je pense que nous avons assisté au cours du dernier siècle, n'est-ce pas, le 19e, à une sorte, disons, d'impérialisme rationnel et rationaliste qui est peut-être, enfin, qui a eu de grands succès dans le domaine de la science, qui peut-être a entraîné un appauvrissement dans d'autres domaines. Est-ce que ça se transformera, est-ce que ça reviendra, je n'en sais rien, je n'ose pas le dire, mais tout ce que l'ethnologue peut dire avec la richesse de son expérience, c'est que il n'y a probablement pas de société viable qui ne considère de l'homme qu'un aspect et qui privilégie cet aspect aux dépens de tous les autres. Enfin, que vouloir une humanité purement rationnelle, c'est probablement une illusion, enfin c'est même certainement une illusion totale. Que toute société est faite de valeurs, pour une part rationnelle et pour une part irrationnelle, et que ces valeurs irrationnelles, eh bien, elles ne peuvent se maintenir, se perpétuer, que si pour des raisons d'ordre très profond, d'ordre affectif, les hommes, les membres de cette société y tiennent.
Claude Lévi-Strauss, quand vous regardez l'ensemble de votre œuvre, à quel aspect de cette œuvre-là êtes-vous le plus attaché, qui vous semble le plus solide, si on peut dire ?
Bon, ce serait vrai, bien prétentieux d'affirmer qu'il y a un aspect solide. Je sais bien que toutes les œuvres sont destinées à être mises en pièces par les successeurs. Mais enfin, disons que ce que j'ai essayé de faire et ce que j'aimerais le mieux savoir que j'ai un peu réussi, sans en être sûr, c'est que, précisément, je me suis refusé à cette coupure que la pensée occidentale a établie, nous en parlions tout à l'heure, entre l'intelligence et la sensibilité. Et que j'ai essayé de situer l'interprétation à un niveau où les facteurs proprement intellectuels et les données de la sensibilité se combinent et forment un tout indissociable. Et si j'avais pu, tant soit peu, contribuer à une reconstitution de l'unité de la nature humaine, n'est-ce pas ? Alors que l'homme se sent profondément déchiré entre ce qu'il est comme être vivant, comme être sentant d'une part, et de l'autre comme être pensant. Eh bien, je serais satisfait, je ne demanderai pas davantage.
Vous avez fait allusion tout à l'heure à des critiques actuelles ou éventuelles. Oui. À quel débat avez-vous été le plus sensible, n'est-ce pas ? Le débat suscité par votre œuvre. Enfin, on pourrait soulever en rappeler certains, si vous voulez, celui que Sartre a eu avec vous, ou récemment des gens plus jeunes comme Girard.
Vous savez, il n'y a eu aucun débat en réalité entre Sartre et moi. Sartre a pris dans la critique de la raison dialectique une certaine position inspirée, non pas du tout par l'histoire, mais par une philosophie de l'histoire, c'est pas du tout la même chose, et qui mettait l'anthropologie à une place, disons, aussi dégradée que ces peuples que Sartre lui-même décrivait comme rabougris, dont nous étions supposés faire notre étude. Ça m'a mis en colère et j'ai réagi, non pas en mon nom propre, mais j'espère au nom de l'anthropologie, en disant que la philosophie de l'histoire n'était pas tout, j'ai le plus grand respect pour l'histoire, mais que les philosophes vont quelquefois un peu fort. Et il n'y a pas eu de polémique pour autant que Sartre n'a jamais voulu engager la discussion, il avait autre chose et mieux à faire, bien entendu, ce n'est pas un reproche que je lui fais. Et alors, je vous avouerai que, enfin, il paraît en effet qu'il y a eu beaucoup de discussions et de débats autour de mon œuvre. Il y a quelqu'un aux États-Unis qui fait la bibliographie des articles ou des livres qui tournent autour de ce que j'ai fait. Et il paraît que le chiffre est considérable, mais je vous avouerai une chose, c'est que je les connais peu et qu'en général, je ne les lis pas. Parce que, ou bien c'est favorable... Et alors, je dirais 99 ou 999 fois sur 100, cette bonne entente repose sur un malentendu radical. Ou bien, c'est ce qui arrive le plus souvent, c'est défavorable, et alors ça me met en colère, je me dis, il faudrait répondre, il faudrait discuter, ça me détourne complètement de ce que je suis en train de faire, alors je crois qu'il vaut mieux l'ignorer. Alors, au fond, je ne sais pas très bien, et je pense qu'il y a de moins en moins de débats, parce que, comme vous ne l'ignorez pas, le structuralisme auquel je suis associé a complètement passé de mode, et on s'occupe aujourd'hui d'autre chose. Et je trouve que c'est une situation beaucoup plus confortable que celle que les structuralistes ont risqué d'occuper pendant un temps sur le devant de la scène, où on attendait d'eux qu'ils formulent la philosophie des temps nouveaux, qu'ils apportent un message à l'humanité, je ne sais quoi d'autre. Évidemment, c'est rien de tout ça. Nous n'avons rien à dire sur le destin de l'homme. Nous sommes des artisans très modestes, enfin, qui, sur notre petit établi, essayons de démonter et de remonter des horloges pour voir comment les mythes fonctionnent ou comment les règles de mariage fonctionnent. Ou comment les œuvres d'art sont faites, et puis c'est tout.
Votre pensée, quand même, est une pensée qui se poursuit, qui est en perpétuelle évolution, et on a cru voir dans un article récent donné à l'occasion d'un hommage rendu à Charles Morazet, une évolution de votre pensée par l'introduction de cette notion de maison, de maisonnée, dont vous avez parlé.
Non, c'est pas... Écoutez, c'est pas du tout une évolution, c'est que... Il y a certains problèmes qui se posent à l'analyse ethnologique des organisations sociales que nous nous apercevons au fur et à mesure que nous avons plus de matériaux à notre disposition ou que nous dépouillons plus à fond ceux qui ont été recueillis au cours de ces dernières années. qu'il y a certains types d'organisation sociale qui rentrent très mal dans la typologie traditionnelle. Enfin, nous disposons d'un certain nombre de tiroirs pour faire nos rangements. Il y en a qui s'appellent fratrie, d'autres qui s'appellent clan, d'autres qui s'appellent lignage, famille étendue, famille restreinte. Bon, ben, il y a des types de groupements qui rentrent dans aucun de ces tiroirs, ça marche pas. Et c'est un problème qui est tout à fait dans la lancée, si je puis dire, de la réflexion ethnologique. Après tout, on s'attaque aux problèmes les uns après les autres. Et il s'agissait, pour moi, ces dernières années, d'essayer de comprendre ce que c'était ces types de sociétés. Et l'hypothèse que j'ai formulée, c'est que nous pouvions peut-être y parvenir en inversant la perspective traditionnelle dans laquelle l'histoire et l'anthropologie se situent l'une par rapport à l'autre. Je veux dire que quand les historiens trouvent, ou plus exactement trouvaient au XIXe siècle, des usages, des coutumes, des institutions qui leur semblaient bizarres dans les sociétés historiques, eh bien, ils se tournaient vers l'ethnologie et ils essayaient d'y voir le vestige de formes extrêmement primitives. Tandis que le contraire pourrait souvent être vrai, il se peut que des institutions qui relèvent de sociétés historiques et qui ont été depuis longtemps bien étudiées par les historiens, existent aussi dans celles qu'étudient les ethnologues. Et il m'est apparu que la maison, au sens de maison noble, n'est-ce pas comme on dit la maison de France, ou la maison d'Orléans, ou la maison de Hanovre, eh bien, que la maison était une forme institutionnelle d'un type tout à fait particulier, que nous aurions tort d'imaginer appartenir exclusivement au Moyen-Âge européen ou aux périodes équivalentes du Japon et de la Chine, mais qu'en fait nous les voyons réalisées dans certaines des sociétés qu'étudient les ethnologues. Mais il s'agit d'une entreprise, je dirais, de technique ethno-sociologique tout à fait classique, ça n'a rien de nouveau.